Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est une nouvelle étape du déconfinement. Depuis hier dans de nombreux pays et en particulier depuis aujourd'hui en France où la vie redevient un peu plus normale avec la réouverture des cafés et des restaurants. Mais après une boisson chaude ou froide, c'est désormais la question du redémarrage de l'économie qui se pose. Car les choses ne reprennent pas là où elles s'étaient arrêtées brusquement au bout de 2 ou 3 mois. Il y a forcément des conséquences sur l'activité et sur l'emploi que les aides publiques massives ne vont pas pouvoir tout éviter. Quelle reprise et quelle séquelle après la pandémie de Covid-19 ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous par téléphone aujourd'hui. Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Mathieu Plane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et Gaël Mac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, grand reporter au magazine économique hebdomadaire Challenge. Sylvie Matelli, ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire indiquait que le gouvernement prévoyait une baisse de 11% du PIB cette année. Peut-on d'ores et déjà mesurer l'impact de la crise ou est-ce qu'on est encore dans le flou ?
On est encore dans le flou parce qu'en réalité, la plupart des secteurs sont encore soutenus par les pouvoirs publics, voire n'ont pas réouvert, pas redémarré, donc on ne se rend pas tellement compte de ce qui est en train de se passer. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les organisations internationales, même les prévisions des banques centrales ou des États, sont assez optimistes avec une chute massive du PIB cette année, mais un rattrapage en une année, voire 2 années, sans envisager une crise qui s'installe dans la durée, ce que pourtant la plupart des experts et des économistes craignent parce que véritablement on est face à quelque chose de très nouveau, de très particulier, des économies qui sont arrêtées pendant plusieurs mois, des économies aussi dépendantes qu'elles le sont devenues depuis une trentaine d'années. Donc on est vraiment dans une incertitude et on a énormément de mal à percevoir quelles vont être les conséquences économiques, quelles vont être les conséquences sociales et les conséquences politiques de toute cette situation.
Mathieu Plane, vous à l'OFCE, vous faites des prévisions économiques chaque année. Qu'est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal ? Je sais que c'est plus scientifique que ça quand même.
Hein. Ouais, mais là c'est plus une boule de cristal effectivement que des prévisions. Non, j'exagère un peu, mais on est dans une incertitude totale. Hein. Donc nous, nos prévisions pour le moment, elles se limitent à 8 semaines. C'est-à-dire qu'on a fait des prévisions sur le confinement, les 8 semaines, et là on essaye de prévoir les 8 semaines du déconfinement. C'est pour vous dire les prévisions qu'on réalise aujourd'hui. Alors d'habitude, on fait des prévisions à l'horizon au moins de 2 ans ou 3 ans. Donc là, la question qui se pose, c'est quelles sont les décisions que vont prendre les pouvoirs publics dans les mois et les semaines et les mois à venir. Donc ça influence sur l'économie. Comment l'épidémie va évoluer? Et ça, on voit que la réaction politique à cette épidémie, c'est ça aussi qui a généré la fermeture de certains secteurs, le confinement ou pas. Donc, et c'est ça qui crée le choc économique. Et comment vont se comporter les ménages, qui est quand même aussi une grande incertitude face à ça, c'est-à-dire notamment quels vont être les comportements de consommation, est-ce qu'il y aura un élan de consommation, est-ce qu'au contraire, une épargne de précaution est en train de se constituer. Et donc on a beaucoup de facteurs qui s'accumulent, et bien sûr, dans un contexte d'environnement international tout aussi incertain, qui s'ajoute à tout ça. Donc c'est vrai que ça multiplie les hypothèses dans un choc inédit et colossal. Donc c'est vrai que faire une prévision sur l'année, le gouvernement est obligé de le faire, hein, dans le cadre de sa loi de finances rectificative. Mais nous, en tant qu'économistes, on voit qu'encore on a des fourchettes qui sont très grandes, même si on va dire qu'on voit peut-être un peu plus clair qu'il y a encore un mois.
Alors Gaël Mac, il y a reprise, il va y avoir reprise, mais quelle forme va-t-elle prendre ? Ça sera une reprise, j'ai entendu plein de choses, hein, en V, en U, en W, et je m'arrête là pour pas vous faire tout l'alphabet.
Il y a le L aussi.
Ah oui, il y a aussi le L, c'est vrai.
Qui est la perspective la plus morose. Bah oui, c'est bien ça la question. En fait, si on regarde en France depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas connu, on a peut-être connu 2-3 années de récession, c'est-à-dire une année où vraiment au bout des 4 trimestres, on arrivait à un résultat, à une récession, à une baisse du PIB. Et c'était de l'ordre entre 0,5 et 1,5%. Donc du 11%, c'est vraiment terra incognita. Et donc ensuite, pour la reprise, effectivement, on voit que les organisations internationales, la Commission européenne, le FMI, l'OCDE sont plutôt optimistes. pour l'instant, la bonne nouvelle, avec toutes les précautions qui s'imposent, c'est qu'on n'a pas l'air de voir une deuxième vague. Même je pense que le gouvernement est presque surpris dans ses prévisions sanitaires. Bon, mais on ne sait pas du tout si ça va continuer ainsi. Mais en tout cas, ça lui a permis d'accélérer, je pense, un peu son plan de déconfinement, ce qui est vital pour l'économie. Et après, alors il faut voir que l'économie française, elle est quand même particulièrement affectée. On peut voir sur le premier trimestre, par exemple, la baisse du PIB a été de 5,8%, alors qu'il n'y avait que 2 semaines de confinement. Elle a été pire qu'en Italie, pire qu'en Espagne, qui ont été aussi des pays très affectés, parce que les secteurs de la France, le tourisme, la consommation qui est très forte, donc le commerce de détail, les industries automobiles et aéronautiques, ont été des secteurs particulièrement atteints. Donc, et ce seront les secteurs qui auront particulièrement du mal à revenir. Le tourisme, on a compris que c'était une affaire de 2 ans peut-être. L'aéronautique, les prévisions sur l'aérien, on voyait un trafic aérien qui allait doubler en 20 ans. Là, pour l'instant, on s'aperçoit que pour les 2-3 ans à venir, ça va être long. Renault, on voit bien, va très mal. Donc, l'automobile est vraiment dans une situation critique. Donc, les secteurs sur lesquels la France est forte, ont été des secteurs qui sont particulièrement affectés par, par le confinement et par les décisions prises suite à la pandémie. Donc, Aubert, les perspectives de reprise sont que la reprise sera en France peut-être plus poussive que dans d'autres pays voisins.
Oui, Sylvie Matelli, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Pourquoi dans les prévisions économiques de la Commission européenne, la France est-elle plus durement touchée que certains de ses voisins? Et évidemment, on se compare toujours à l'Allemagne. C'est une question aussi peut-être de restrictions plus fortes au moment du confinement?
Non, pas forcément, mais c'est toutes les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire les secteurs d'activité touchés en premier chef par cette pandémie ont été des secteurs d'activité où la France a des atouts et qui représentent une part importante de notre PIB. Donc bien évidemment, on a ralenti plus durement. C'est par contre assez questionnable d'envisager que la France reste le mauvais élève de la classe, et les prévisions de la Commission sont très discutables. Je pense que c'est un peu tôt pour le savoir. On va voir ce que va donner la saison estivale en fait, et avec la reprise du tourisme en France. Et je pense que c'est à l'issue de l'été qu'on pourra avoir véritablement une idée. Alors à l'issue de l'été pour la saison estivale, mais aussi par rapport à la réouverture, la reprise des transports et des échanges internationaux, qu'on pourra véritablement savoir si la France est durement affectée, c'est certain, mais si elle peut se redresser plus vite qu'on ne l'envisage aujourd'hui.
Oui, Mathieu Plane, la France, c'est une économie ouverte, et même si sa balance commerciale est négative depuis des années, est-ce que c'est un inconvénient quand les contacts avec les partenaires sont limités, comme ça a été le cas depuis 2 ou 3 mois?
Disons que la France a été touchée en plein cœur. Avant, on avait une forme de résistance de l'économie française par rapport à l'extérieur qui était liée au fait qu'on avait beaucoup de ce qu'on appelle de services, qui est un secteur abrité. Et notamment tous les commerces dont on parle, mais y compris finalement le tourisme, hein, les événements, certain nombre de tous ces services de proximité qu'on a, contrairement à l'Allemagne, qui est une économie qui est beaucoup plus tournée sur l'industrie et les exportations. Et donc on pensait que ces services, en tout cas ce secteur abrité, étaient beaucoup moins mis en difficulté par les chocs mondiaux jusqu'à présent, où c'était plutôt l'industrie qui subissait ces chocs. Or là, en fait, la crise sanitaire et le confinement a attaqué directement l'économie à son cœur, et là où normalement on est censé avoir de la résistance, c'est-à-dire que la France est connue pour avoir plutôt un niveau de consommation élevé, un pouvoir d'achat qui est relativement, même si on a eu des crises sur le pouvoir d'achat, est relativement stable par rapport à d'autres pays, notamment lié aux amortisseurs sociaux, au fait qu'on a un modèle social relativement développé, qui fait que ça limite en général les crises sur le pouvoir d'achat et donc sur les secteurs des services. Or là, on voit qu'on est dans quelque chose de différent. C'est pas que les ménages n'ont pas voulu consommer, c'est qu'ils ne pouvaient pas consommer dans ces secteurs-là. Or ces secteurs-là, désormais, sont en première ligne, ce qui fait que d'habitude, on voit que les secteurs les plus exposés qui étaient l'industrie, et notamment l'Allemagne par exemple, dont 50% de son PIB sont des exportations, se retrouvaient en général en plus grande difficulté que la France quand on avait un retournement du commerce mondial, du cycle mondial. Là, c'est très différent parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui fait en partie la force de la France qui est impactée, ça a été dit. Et donc, c'est la question, c'est comment et quel redémarrage on peut avoir pour ce type d'activité, comment le tourisme va reprendre à l'horizon de 6 mois, 1 an, 2 ans, comment vont être des secteurs qui étaient ou des zones géographiques qui étaient relativement attractives, on le voit en France, hein, notamment aussi les grandes agglomérations, qu'est-ce qui va se dessiner à cet horizon-là. Donc on est face vraiment à une nouvelle incertitude et une fois de plus avec des éléments qui sont vraiment inconnus, hein, c'est-à-dire que bon, les nouvelles du point de vue sanitaire et de l'épidémie sont plutôt bonnes, mais les épidémiologistes disent qu'attention, parce qu'il y a toujours un risque de deuxième vague à l'automne. Donc on navigue vraiment à vue, et les pouvoirs publics naviguent à vue, et on voit que ça a des répercussions sur l'ensemble de l'économie, sur la confiance, sur de l'investissement aussi à long terme. Et cette incertitude, tant qu'elle ne sera pas levée, va créer beaucoup de difficultés. Et on n'est pas sur une incertitude juste locale ou sur un secteur, mais sur une incertitude globale et à l'échelle du monde. Et c'est bien la grande difficulté aujourd'hui pour faire des évaluations et avoir un peu une idée de ce qui se passe.
Gaël Mac, dans sa communication, le gouvernement compte manifestement sur l'épargne accumulée pendant l'arrêt de l'économie. C'était présenté comme une nécessité, et Mathieu Plane en a un peu parlé. Les Français et les entreprises, est-ce qu'ils vont dépenser, ouvrir leur portefeuille, ou est-ce qu'ils ne vont pas être un petit peu prudents pendant au moins quelques mois?
C'est un facteur psychologique. J'ai toujours pensé qu'on sous-estimait l'impact psychologique et la manière comportementale dans l'étude de l'économie. Donc effectivement, selon le Trésor, l'épargne forcée devait se monter à presque 100 milliards d'ici septembre, ce qui est énorme, hein, ce qui représente 4 points de PIB. Donc voilà, il y a une épargne forcée du fait du chômage partiel qui a été le plus généreux d'Europe en France. Donc finalement, beaucoup de ménages n'ont pas perdu tant de revenus que ça, et par ailleurs, ils ont été dans l'impossibilité de consommer. Bon, donc maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'ils vont repartir comme avant, même voire rattraper certains achats qu'ils avaient l'intention de faire et qu'ils n'avaient pas fait, sachant que c'est évidemment pas possible dans tous les secteurs, hein, les concerts, les visites au musée, les soirées restaurants qu'on n'a pas faites, on ne va pas les rattraper, mais disons que pour d'autres achats de biens, ce serait possible. Ou est-ce que ça va créer un comportement plus globalement frugal ou au moins prudent, sachant que il y a des incertitudes sur le chômage à venir. Pour l'instant, il y a une sorte d'anesthésie générale qui a été créée par la nationalisation des salaires, plus ou moins par le gouvernement. Mais dans les mois à venir, les entreprises vont avoir plus de mal, il peut y avoir des faillites, l'aide du gouvernement va baisser. Déjà en juin, le chômage partiel va être moins généreux. Et donc, les gens peuvent s'inquiéter et donc ne pas repartir. Donc, il y a certains secteurs qui sont très lourds en France, comme l'immobilier, comme évidemment la restauration, qui attendent de savoir si... Donc il y a eu des premiers indices qui sont venus de Chine, qui s'est confiné bien plus tôt, où on a vu que la consommation repartait de plus belle, très fortement, sauf pour les biens durables qui demandaient un endettement, par exemple l'achat d'une voiture ou d'un logement, où là, il y avait un frein sensible persistant parce que les gens ont peur de s'endetter. Donc, pour la France, on se demande ce qu'il en sera. Pour les entreprises, bon, ça c'est pour ce qui concerne les gens, hein, les ménages. Après, pour les entreprises, c'est clair que leurs projets d'investissement vont être complètement obérés parce que malgré tout, elles vont ressortir de là avec des dettes. Il y a eu des reports de charges et des reports d'impôts du gouvernement, mais ce sont des reports, ce ne sont pas des annulations pour le moment. Et puis, il y a eu des prêts garantis par l'État, mais ce sont des prêts, donc il faut quand même les rembourser. Donc, les entreprises vont sortir avec une trésorerie dégradée qui va effectivement les amener à être obligées de revoir leur projet d'investissement.
Oui. Sylvie Matelli, on a commencé à le faire avec Gaël Mac, je voudrais parler de l'impact sur l'emploi. Le chômage partiel et les mesures d'État ont amorti le choc beaucoup mieux qu'aux États-Unis, par exemple, mais n'ont-elles pas placé le pays sous une forme d'anesthésie, je reprends le mot de Gaël Mac parce que je n'en trouve pas de meilleur, et qui risque d'être douloureuse quand les mesures d'accompagnement vont être levées petit à petit?
Alors peut-être, mais encore une fois, on est dans une totale incertitude. Tout est lié, la situation économique, la reprise de la consommation, la façon dont vont récupérer les entreprises. Ce qui est certain, c'est qu'il fallait accompagner les entreprises et accompagner les travailleurs de ces entreprises qui se retrouvaient, pour certaines, totalement à l'arrêt, en incapacité de travailler. Sinon, on était quasiment certain qu'à l'issue de la pandémie, une fois le déconfinement totalement réalisé, on allait se retrouver avec des entreprises prise en faillite et donc des personnes au chômage et durablement au chômage. Donc on a fait ce qu'il fallait, c'est vrai que c'est une forme d'anesthésie, mais on n'avait absolument pas le choix parce que pour ces entreprises-là, il n'y avait pas d'autres alternatives que de cesser le travail parce que le confinement ou alors de réduire la masse salariale parce qu'elles se retrouvaient avec une baisse d'activité notable. Donc ça, c'était la première étape. L'étape suivante, c'est l'étape du déconfinement avec la reprise d'activité. Et là encore, ça va être probablement très variable suivant les secteurs. On peut imaginer par exemple que le secteur aéronautique va mettre des années à récupérer de cette crise, alors qu'on peut penser que le tourisme risque, au contraire, et le tourisme en France en particulier, ou la grande consommation, risque de redémarrer très rapidement. Et d'autant plus pour la grande consommation que finalement ils ont moins souffert de la crise que d'autres secteurs, voire dans certains cas, ils ont pu préserver leur activité et même l'emploi. Donc voilà, on va avoir une approche assez différenciée et il est certain que dans des secteurs d'activité, le chômage va durablement s'installer. Donc chômage, qui dit chômage de longue durée, dit aussi des difficultés sociales majeures. L'autre élément à prendre en compte, comme je le disais tout à l'heure, c'est la reprise économique, la reprise de la consommation et encore une fois, pas forcément seulement la reprise de la consommation en France, c'est la reprise économique dans le monde en général parce que les secteurs se soutiennent les uns les autres. Il y a une véritable interdépendance et des échanges internationaux qui font que la reprise économique et la baisse du chômage ou l'ampleur du chômage ne dépendent pas uniquement de facteurs endogènes, de facteurs franco-français en réalité.
Mathieu Plane, on commence à lire ça un petit peu partout. Est-ce qu'il faut craindre une succession de plans sociaux dans les prochaines semaines ?
Oui, il faut craindre ça, malheureusement. On va dire là, on a vu, et vous l'avez, ça a été rappelé, on était dans l'urgence, hein, l'économie a été mise sous cloche. On a mis des dispositifs de chômage partiel, notamment qui ont permis de préserver en partie l'emploi, mais je dis bien en partie parce que faut quand même le rappeler, on a eu plus de 800 000 inscriptions au chômage le dernier mois,
Au mois
d'avril, oui, après plus de 200 000 en mars, donc déjà plus d'un million, hein, en l'espace de un mois et demi de confinement. Donc, et ça, c'est tous les contrats courts, hein, notamment les CDD, l'intérim qui n'ont pas été renouvelés, hein, et donc il y a particulièrement des jeunes qui sont touchés. Donc, on voit déjà, en très peu de temps, on a un choc qui est colossal, qui est nettement supérieur à ce qu'on a eu après Lehman Brothers. Et la question maintenant est plutôt sur le second tour de la crise. Et donc là, ça dépend beaucoup d'un certain nombre de facteurs de reprise qui ont été dits. C'est-à-dire comment les ménages vont se comporter, est-ce qu'il y a un rebond de la consommation, dans quel secteur, etc. Comment ça se passe aussi au niveau international. Mais ce qu'on craint aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des pertes accumulées importantes du côté des entreprises qui représentent des dizaines de milliards aujourd'hui, malgré les dispositifs mis en place pour une raison simple, c'est que si une partie des salaires ont été socialisés, c'est ce qu'on a vu, il reste des coûts fixes pour beaucoup d'entreprises. Alors, c'est les loyers pour les commerces, mais par exemple, dans l'industrie, c'est tous les biens d'équipement qui ont été achetés, c'est tous les investissements réalisés qu'il faut payer chaque mois, qui sont des gros investissements, et vous n'avez pas d'activité en face, et qu'il faut bien rembourser. Donc, vous serez face à ce problème-là. Vous avez donc les pertes qui s'accumulent, vous avez la reprise qui est lente, vous avez le fait qu'on a des coûts supplémentaires liés à la réorganisation des entreprises, avec la crise sanitaire, notamment, et des perspectives d'activité, de reprise ou même de retrouver un niveau d'activité probablement dans un an, voire deux ans, voire jamais. Et donc, il y a un problème de rentabilité qui va se poser, sachant que les dispositifs budgétaires et fiscaux vont plutôt se réduire au cours du temps. Et donc, c'est vraiment ce qu'on craint aujourd'hui dans un certain nombre de secteurs, c'est qu'on passe dans la phase 2 de la crise où on est soit des licenciements, soit des plans sociaux qui se mettent en place, que les entreprises ont intégré que les pertes allaient être importantes et que du coup, elles ajustent sur l'emploi. Soit, l'autre phase, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez des fonds propres négatifs pour les entreprises, vous avez fait de la trésorerie, mais la dette est tellement forte en sortie de crise que vous ne pouvez pas payer et vous n'avez pas d'autre choix que de vous mettre en faillite. Donc, c'est là où ça va être extrêmement délicat pour les pouvoirs publics, c'est de savoir jusqu'où ils vont aller dans l'intervention. Justement, quelles entreprises peuvent être sauvées? Est-ce qu'on va faire de nouveaux plans de relance? Quels sont les plans de relance? Est-ce qu'on fait des aides sectorielles? Est-ce qu'on élargit des dispositifs fiscaux? Donc là, les enjeux des mois à venir, des semaines à venir, sont colossaux.
Oui, Gaël Mac, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on va devoir continuer cette perfusion de deniers publics?
Ah oui. Je vois qu'il ne va pas y avoir de choix. Donc, ça va prendre une forme différente. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, on va réduire les dispositifs de chômage partiel, mais il est bien probable que dans certains secteurs, et ça a déjà été sous-entendu et ça me paraît clair, les reports de charges ou d'impôts ne soient plus des reports mais des annulations, pur et simple. Donc jusque-là, tant que c'est des reports, c'est de la trésorerie pour l'État, mais quand c'est des annulations, ben, ça devient du déficit public supplémentaire qui va quand même atteindre environ 10% cette année, donc déjà pas mal. Et bon, il est clair qu'il va falloir des plans de relance dans certains secteurs comme la culture, hein, les festivals, les événements, les concerts, le théâtre, etc., comme sûrement dans la restauration et une partie du tourisme. Il va falloir des plans de relance forts qui vont demander de l'argent public de nouveau. Donc la facture qui est déjà aux alentours de 150 milliards, il me semble, va... Mais bon, là-dedans, il y a aussi des prêts. Ce n'est pas que de l'argent complètement décaissé, mais qui est quand même déjà très, très élevé. Je pense qu'elle va encore gonfler. D'où l'intérêt des réflexions au niveau européen sur ce qui va advenir de la dette et est-ce qu'il va y avoir une sorte un peu d'argent magique avec, si ce n'est des annulations de dettes, au moins des dettes communes remboursables sur très 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 long terme, de sorte à être plus ou moins indolore. Voilà, en tout cas, cette question-là, la question de qui paye, elle va être vraiment importante pour la deuxième partie, pour la reprise, parce qu'on va encore avoir besoin d'argent public massivement, au moins toute cette année 2020, au deuxième semestre 2020, et même sûrement encore après. En tout cas, on va avoir besoin de dispositifs lourds pour aider les secteurs. Sachant qu'en plus de cette question simplement de ranimer les secteurs d'activité qui ont été mis à l'arrêt ou vraiment fragilisés par cette crise, il y a des nouvelles exigences issues de la crise, par exemple la souveraineté économique, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait être moins dépendant au niveau français ou tout au moins européen pour un certain nombre de biens de nécessité comme les médicaments, les masques, et donc on a étendu cette réflexion plus largement. Et si on veut mener cette politique, avoir une réflexion sur la souveraineté économique, là aussi ça va demander des politiques publiques qui vont devoir être financées.
Alors Sylvie Matelli, justement, je rebondis là-dessus, le plan d'aide de la Commission européenne avec des emprunts européens, c'est 750 milliards d'euros. Est-ce que ça vous paraît nécessaire à la relance ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il va peut-être falloir faire 100 parce qu'il est encore loin d'être validé ce plan ?
Alors effectivement, c'est indispensable et c'est bien que ça puisse se faire au niveau européen parce que ça réduit aussi l'épée de Damoclès qui pèse sur un certain nombre de pays qui ont massivement augmenté leurs dettes alors qu'ils étaient déjà dans une situation extrêmement compliquée. Je pense bien évidemment à l'Italie, à l'Espagne, mais aussi
à la France.
Dans une certaine mesure à la France, tout à fait. Ce plan est très intéressant dans l'approche en fait et qui, la prise de conscience. Alors, allemande, mais pas que, ça commence à bouger, les mentalités commencent à bouger un petit peu, puisqu'on valide l'idée qu'il vaut mieux être unis dans une zone euro restaurée, on va dire, et qu'on a soutenu, qu'il est nécessaire également d'augmenter le budget de la Commission européenne, donc ça aussi c'est très intéressant, mais comme vous l'avez dit, pour l'instant il n'est pas voté, et pour l'instant on n'a aucune certitude sur ce qu'il va se passer, et quand on voit comment les 27 s'étaient étripés quelques semaines avant le confinement sur le projet de budget européen, on peut se dire ça va être difficile et ça risque d'être conditionné. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que, même si ça n'est pas à souhaiter, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. C'est-à-dire, si à un moment donné, il n'y a pas un engagement européen fort, alors ça peut être l'engagement de la BCE, mais la BCE ne peut pas tout, et ça fait bien longtemps qu'elle appelle et qu'elle demande à la Commission et aux États de prendre leurs responsabilités. Sans un engagement européen, la crise risque d'être d'une autre ampleur que ce que nous avons connu avec la crise de la zone euro en 2010-2012. Et donc avec véritablement le risque de défaut d'un pays, voire le risque de sortie d'un pays et d'éclatement de la zone euro. Donc on a une prise de conscience de ce danger. Je pense que les choses vont se lisser. Est-ce que le plan à 750 milliards sera voté? Peut-être pas, mais en tout cas, il y aura très probablement une réaction et de la Commission européenne, et une proposition, un plan de relance de la Commission européenne, quel qu'en soit le montant, même s'il est un petit peu plus faible que les 750 milliards, et très clairement des engagements des États européens vers une certaine forme. Alors, j'aime pas le mot de solidarité, parce que c'est pas une solidarité. Tout le monde a intérêt à la survie de la zone euro. Donc, on n'est pas solidaire. On défend ses intérêts aussi. Mais il y aura très certainement une action commune, si c'est pas suffisant au niveau de la Commission, une action commune d'un certain nombre de pays.
Mathieu Plane, il est temps de lancer une politique, une véritable politique budgétaire européenne ?
Oui, il est temps. Il est temps. On voit qu'il se passe des choses.
Parce qu'on va juste le rappeler. Pour l'instant, la politique économique européenne, c'est la politique monétaire de la BCE.
Essentiellement.
Voilà. Essentiellement.
Enfin, l'intervention, en tout cas rapide, c'est la BCE. D'ailleurs, il faut le souligner. Hein, si la BCE n'avait pas justement mis en place ce programme de rachat de dettes massif, on serait déjà dans une autre situation, dans un autre monde, certainement avec des risques de défaut de l'Italie, par exemple. Donc c'est très important, le rôle des institutions et de la Banque centrale, c'est le cas, hein, c'est ce qui a été fait. Maintenant, il faut voir que l'Europe a eu du temps à réagir à cette crise, et on voit que chaque pays était un peu renvoyé à sa problématique nationale. Donc la question après, c'est de la construction de l'Europe autour de cette crise. C'est vrai que l'Europe joue beaucoup là-dessus, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas convaincu, mais il faut qu'elle convainque. Et ça veut dire, on voit notamment qu'au bout d'un moment, il y a une question de solidarité européenne face à cette crise du Covid, hein, qui est une crise commune. C'est pas une crise des dettes où, à un moment donné, il y avait une guerre entre le Nord et le Sud sur la bonne gestion des finances publiques. Là, on voit que c'est un choc commun. Donc, il faut une solidarité dans la réparation et un plan qui a du sens. Mais il faut que ça aille assez vite. Et cette solidarité, ça veut dire commencer à penser à des transferts. C'est-à-dire que finalement, les plus riches paieront pour les moins riches. Mais il faut une acceptation sociale globale à ça. Et le projet européen peut se faire que si on arrive à émerger là-dessus, et avec des montants importants et une capacité vraiment à agir, y compris sur les projets, différents projets industriels, technologiques, écologiques, la question des relocalisations, d'une taxe carbone aux frontières, tous ces enjeux-là qui doivent dépasser juste la preinte. Enfin, on a vu l'Europe qui s'est construite essentiellement sur les questions de concurrence et de règles budgétaires. Donc on voit que c'est plus du tout la bonne réponse à la crise. Maintenant, il faut un axe commun européen où on ait ce consensus pour une reconstruction importante. Sinon, malheureusement, si on ne trouve pas ce point d'accord, l'Europe est en danger, quoi. Je pense qu'il faut vraiment, c'est une chance pour l'Europe d'avancer, mais par contre, si on ne trouve pas ce chemin, en tout cas, qui permet d'avoir une solidarité européenne et d'avancer dans le même sens, on risque d'avoir une Europe éclatée, et là, ça serait catastrophique.
Oui, Gaël Mac, je vais vous demander d'essayer de concentrer votre propos en une minute. Il y a quand même de grosses résistances, les quatre frugaux, notamment.
Oui, mais bon, l'Europe, ça s'est toujours construit comme ça. C'est-à-dire, c'est tout le temps au pied du mur, devant l'urgence, face à un risque d'éclatement, que les mesures un peu communes ou que de solidarité se mettent en œuvre. Ce n'est jamais dans un processus politique apaisé, c'est tout le temps face au Brexit, face à la crise de 2008, face au risque de faillite de la Grèce, que les choses se font. Donc ça sera certainement comme ça de nouveau, à la dernière minute, à 2h du matin, un week-end. Par ailleurs, ce qui pourrait être une porte de sortie pour l'Europe, c'est sa possibilité, comme l'évoquait Mathieu Plane, de lever elle-même certains impôts, ce qui demanderait du coup plus aux États d'abonder au budget. Par exemple, cette taxe carbone aux frontières ou la fameuse taxe sur les transactions financières qu'on négocie depuis des lustres, ou encore la taxe sur les GAFA, sur les entreprises du numérique américaines, qui est également en négociation. Et là, du coup, ça pourrait abonder directement le budget de l'Europe sans peser sur les États.
Merci Gaëlle Mac. Merci également à vous, Sylvie Matelli et Mathieu Plane, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret et Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Javier González-Gavilán. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous. Appelez-nous,